Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Itinérance, c'est un titre qui convient parfaitement à l'exposition qui se déroule au Carré d'Art du 14 avril au 11 juillet. Et j'ai la grande chance d'être avec Catherine Veil. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Petite fille d'André Chanson.
C'est exact.
Et Micheline Cellier, biographe d'André Chanson.
Tout à fait.
Alors je vais vous poser à chacune, d'abord bonjour toutes les deux, je vais vous poser d'abord la question, Catherine. C'est émouvant de voir cette exposition. Là, nous sommes en visite de presse, donc nous sommes tranquilles. Et vous découvrez des documents que vous n'avez jamais vus.
Alors, vous avez tout à fait raison. Je les découvre de la meilleure façon possible, comme vous dites, en étant en journée de presse. Je sais que tous ces documents viennent des archives que maman a confiées à la ville de Nîmes et ensuite à Carré d'Art Bibliothèque.
Frédéric Évrard.
Mais certains, voilà, Frédéric Évrard, mais qui est né à Nîmes. Mais je n'avais pas connaissance, contrairement à Micheline Cellier, de tous ces documents. Donc il y en a dont j'avais entendu parler, mais il y en a que je viens de découvrir, des lettres de Duhamel, des lettres de Daladier, des mots de Scott Fitzgerald, des choses dont on m'avait parlé, mais qui ne sont pas forcément celles dont je me souvenais. Je suis très émue, très fière de cette position autour de mon grand-père André Chanson, mais je suis très touchée par toutes les vies qu'il a eues. C'est-à-dire, bon, ça a été mon grand-père, mais ça a été un jeune auteur extrêmement remarqué, extrêmement talentueux avant la guerre. Ça a été ensuite un homme pacifique qui a décidé de s'engager, voilà. Je redécouvre tout un tas de facettes de chansons que je connaissais, mais que je redécouvre grâce au travail qui a été fait par Eddy Noblet, directeur adjoint à Carré d'Art Bibliothèque, et puis je dirais pas sous la houlette de Micheline Cellier, qui est non seulement la biographe
officielle,
une amie de la famille, vraiment, qui sait tout sur chansons mieux que chacun d'entre nous. Mais c'est un travail remarquable. Je pense que ça peut parler à toutes les générations. Et je pense que certaines personnes plus jeunes vont découvrir les propos, les extraits qu'on peut lire dans l'exposition, de lettres, d'engagement. Cette parole de chanson est totalement actuelle quand on connaît des périodes troublées comme peut-être en
comme
ce
nous
moment,
connaissons.
Comme on connaît aujourd'hui.
Alors André Chanson a vécu deux.
Alors il est né en juin 1900. Il nous a quittés quelques mois après sa chère épouse Lucie Mazeric, ma grand-mère. Tous les deux sont partis en 83, elle en juin et lui je crois en novembre.
Oui, l'amour ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre.
Je suis arrivée simplement pour leur dire bonsoir. Un jour, je devais dîner avec des amis. Et quand je suis arrivée, la jeune infirmière qui s'occupait de veiller sur eux la nuit n'était pas malade. Je dis bonjour, je suis Cathy, la petite fille. Elle me dit, moi, je suis Conception et votre grand-mère est au paradis. Et à ce moment-là, André Chanson est venu vers moi du fond de l'appartement. Il ne se levait plus beaucoup. Là, il était debout et il me dit, Cathy, tu es au courant ? Je dis oui, Daddy, mais comment vais-je vivre sans cette femme adorable ? Donc c'était vraiment un couple. Uni du début jusqu'à la fin.
Alors c'est vrai que dans l'exposition, on a répété à plusieurs reprises qu'il faudrait qu'un jeune s'intéresse à Lucie Mazeric.
Oh, oui.
Parce qu'elle a eu une vie assez étonnante. Micheline, vous allez peut-être vous...
Je pense qu'il va y avoir quand même
une relève,
bien sûr, des jeunes qui vont s'y intéresser.
Alors j'ai oublié de dire que l'exposition s'appelle « Quels hommes sommes-nous devenus ?» André Chanson, itinéraire d'un humaniste au XXe siècle. Et elle dure donc jusqu'au 11 juillet 2026. Il y aura un tas de dates d'animation, d'ateliers, de visites, et puis surtout le colloque du 24 et 25 avril, où il y a vraiment des personnalités, des spécialistes. Alors Micheline, vous êtes la biographe. Comment, pourquoi vous êtes intéressée à André Chanson ?
Alors, je me suis intéressée à André Chanson parce que tout simplement, j'ai découvert Rousse le Bandit. Voilà, et c'est en lisant Rousse le Bandit, je ne connaissais pas Chanson, et j'ai lu ce texte et je l'ai trouvé absolument extraordinaire, magnifiquement bien écrit, avec des valeurs. Enfin, il y a quelque chose qui m'a profondément touchée.
Il l'a écrit très jeune.
Et il l'a écrit très jeune, en 1925. Et vous voyez, moi, je l'ai lu bien après, bien entendu. Et c'est un livre qui, effectivement, je comprends qu'il puisse toucher encore des lecteurs. Et donc, je suis contente, en effet, des rééditions et également de la version BD là, qui vient d'être éditée par Alcide.
Oui, il faut parler de tous les livres qui ont été édités par les éditions Alcide, hein, Yann Cruvelier, qui est un élément majeur aussi de cette exposition. Elle a lieu au Carré d'Art, mais les éditions Alcide y participent beaucoup. Alors, vous avez rencontré André, je te permets de dire André.
Non, pas du tout, jamais. Non. Moi, j'ai passé ma thèse en 1998 et il est décédé en 1983.
Je pensais que vous l'aviez rencontré.
Non, jamais. Vous voyez, c'est un de mes grands regrets. Non, je ne l'ai absolument pas rencontré. Mais voilà, je l'ai rencontré en le lisant, et notamment avec Rousse le Bandit. Mais en revanche, j'ai rencontré Frédéric Hébrard et après ma thèse, je lui ai dit que ce serait bien que je fasse une biographie. Mais à vrai dire, c'était le jury de thèse qui m'avait dit vous devriez écrire, en effet, parce qu'il a eu un itinéraire tout à fait exceptionnel. Et c'est à partir de là que Frédéric, fort gentiment, vraiment avec beaucoup de cœur, m'a ouvert les archives de son père. Et Catherine dit qu'elle est émue là, de voir tous ces documents. Moi, ce sont des documents que j'ai découverts in situ, dans leur jus,
dans une cave inconfortable.
Non, pas une cave, mais enfin, voilà, quelque chose.
C'est merveilleux d'avoir donné toutes ces archives au Carré d'Art.
Ah, c'est absolument formidable.
Valérie Travier me disait que vous avez au Carré d'Art, il y a plus de documents qu'à l'Institut. C'est incroyable.
Ah, l'Institut, il y en a.
Presque une tonne de
500 kilos.
500 kilos.
Oui, 500 kilos.
2000 tonnes.
Oui, non, c'est absolument énorme.
Alors, comme vous ne l'avez pas rencontré, je vous propose, parce que Catherine, vous êtes la lectrice du film qui passe dans l'exposition.
Oui, c'était
j'ai reconnu de temps en temps les intonations de votre maman Frédéric que j'avais rencontrée au Bressou. Et moi, j'ai découvert André Chanson, par Frédéric Hébrard, bien évidemment, et qui m'a dit « Lisez la chambre de Goethe ». Et je suis historienne, moi, et sur le Louvre, sur la protection des œuvres du Louvre, j'ai trouvé que la chambre de Goethe, c'était remarquable.
Vous avez
donc,
raison.
Voilà, c'était important, je crois, d'en parler. Et je vous propose qu'on écoute dans ce film, il y a la voix d'André Chanson, et on écoute donc les quelques... Enfin, vous en avez des heures entières d'entretien, enfin d'entretien de voix, mais on choisit l'extrait très court qui est dans le film. Le film dure 10 minutes et il résume vraiment l'exposition.
Et vous voyez aussi l'actualité de cette voix.
Oui.
Vous avez la prosodie qui est étonnamment moderne, c'est-à-dire qu'on l'entendrait maintenant en 2026 et cela fonctionnerait encore.
Oui, quand on écoute Malraux, ça compte.
C'est autre chose.
La voix d'André Chanson. Oui. Donc on écoute.
Résister. Et résister, c'est sans doute combattre. Mais c'est aussi faire plus. C'est se refuser d'avance à accepter la loi de la défaite. Voilà l'exemple que nos Cévennes donnent à l'homme. Elles lui disent, par toute leur structure, par toute leur histoire, par toute leur humanité, que résister, c'est d'abord ne pas s'arrêter à la persécution, ni à la calomnie, ni à l'injure. Puis, s'il le faut, que c'est combattre. Et puis, vainqueur ou vaincu, que c'est résister quand même, c'est-à-dire rester semblable à ce que l'on est, jusque dans la défaite et jusque dans les fers. Le grand exemple, ce que j'appelais, voici un instant, le secret des Cévennes, c'est de montrer que l'homme ne peut pas être abaissé, ni confondu, ni enchaîné par des moyens humains.
Alors dans cette émission, vous l'avez dit Catherine, André Chanson a tellement de facettes qu'on ne va pas dire tout le contenu de l'exposition, il faut venir, elle dure jusqu'au 11 juillet. On peut peut-être signaler les grandes étapes, c'est-à-dire la jeunesse. Edith Noblet nous a dit aussi combien il avait fallu, et vous, combien il a fallu faire de choix dans les documents. Donc moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les lettres manuscrites. Je trouve qu'une bibliothèque, c'est ça aussi. Hein. Mm-hmm. Et c'est vrai que Il a côtoyé les plus grands de,
oui, tout à
de
fait.
Ce monde, tout alors qu'il est d'une origine sévenole.
Oui, c'est ça.
Il est né à Nîmes, il a vécu à Alès, donc on raconte sa vie. Et il a, peu à peu, donc, fait son chemin.
Voilà. Et moi, c'est une question que je m'étais posée en tant que biographe. Comment se fait-il que ce petit Cévenol, et petit n'est pas forcément péjoratif, soit devenu finalement cet écrivain avec une dimension nationale et internationale? Et vous savez, il y a des historiens qui ont travaillé justement sur les modes de fonctionnement des intellectuels. Et je me réfère souvent à l'analyse d'un historien qui s'appelle Rémy Rieffel, qui montre qu'en fait, même s'il y a des différences entre les différents itinéraires, on passe grosso modo par trois étapes, qui est à la fois l'affiliation, il faut s'affilier au groupe des intellectuels, à la tribu des clercs, disait-il. Ensuite, il faut légitimer son image. Et enfin, il faut également passer le stade de la consécration. Donc, affiliation, légitimation, consécration. Et l'affiliation, Chanson l'a eu avec Rousse le Bandit. C'est-à-dire que ce livre a été tellement apprécié et en même temps tellement polémique que cela a fait le buzz, comme n'aurait pas dit André Janson. et effectivement, il a été connu et c'est ainsi qu'il est rentré dans la République des Lettres avec le salon de Daniel Alévi et puis également les librairies d'Adrienne Monnier et de Sylvia Bisse. Donc là, il y a eu les modes d'affiliation. Ensuite, il a continué à écrire Les Hommes de la Route, Le Crime des Justes, chaque fois avec des éditions internationales, et au fur et à mesure, ça a amplifié son statut. Donc les modes d'affiliation, vraiment, tout est passé avec Rousse le Bandit.
Alors, c'est l'objection de conscience. Hein, donc, écrire sur l'objection de conscience, ça l'a un peu desservi aussi, hein, parce que ça l'a bloqué un petit peu dans sa carrière. Et c'est assez étonnant de passer de la jeunesse, qui est la première partie, aux honneurs, qui est la dernière partie.
Oui. Hein,
ça résume un petit peu cette photo magnifique de vous en famille avec vos parents, votre
l'Académie française.
L'Académie française. Voilà. Je trouve qu'elle est pleine de vie. Vous parliez d'émotion, mais moi, quand je la regarde, je suis émue. C'est assez. Vous êtes là, vivant. Ils sont là, vivants. Alors, c'est un homme qui a vécu, avec sa femme également, Lucie Mazauric, les grandes épreuves politiques, hein, c'est-à-dire le Front populaire, la guerre. Mm-hmm. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a refusé d'écrire, au tout moins de publier.
De publier, d'être donc, édité.
Ça m'a fait penser à Victor Hugo qui a dit « Je ne rentrerai pas en France tant qu'il y aura Napoléon III ».
C'est vrai.
J'ai fait une analogie comme ça en disant « Je ne vais pas me salir quelque part
».
Donc
c'est
magnifique.
Ça. C'est ça.
Et puis après, le défenseur des arts et puis les honneurs. Donc je trouve que le parcours est assez remarquablement
D'autant plus remarquable que pour revenir justement au mode de légitimation, c'est-à-dire qu'en écrivant, il va être au fur et à mesure, il va être conforté dans sa position d'écrivain, de renom, publié, et puis également traduit. Et puis en même temps, dans cette période de la guerre où il se tait, là, tout d'un coup, il va être oublié pendant 5 ans. Ouais. Donc il va revenir en fait en 1945 avec... une réputation qui finalement n'était plus connue. Et il lui a fallu repartir encore sur un autre mode de légitimation à partir de 1945-46, justement avec le Puits des Miracles. Et il a repris également ce premier stade avant de relégitimer et puis ensuite d'avoir la consécration. Donc il y a eu quand même cette période de la guerre de 39 à 45 où il s'est tu, parce qu'il disait qu'en effet, les temps ne lui auraient demandé que des mensonges.
Il y a des très belles phrases qui sont marqués sur les murs,
très belles citations,
des citations, mais qui nous alertent. Hein. Et puis, protestants, résister, on pense à la tour de Constance, on pense à toutes les époques, hein. On pense aux Huguenots, on pense aux Galériens, enfin, je veux dire, il y a vraiment... Et puis, on pense aux résistants actuels, hein, ce qui se passe actuellement en Iran, en Ukraine, il y a vraiment un élément... d'actualité, et je conseille vraiment de venir voir cette exposition et puis de participer au colloque, parce que tout ça c'est entrée libre, hein, je veux dire c'est gratuit.
C'est gratuit.
Et c'est important parce qu'il faut, je pense qu'il y a des classes, il va y avoir des ateliers qui vont permettre vraiment de le connaître. Alors d'un point de vue, vous êtes là Catherine et je merci encore de vous prêter à cette...
Mais c'est un plaisir.
Et vos parents ont Louis Veil et Frédéric Lebrard ont disparu. Et ils sont... Enfin, parlez-nous de leur tombe, parlez-nous de cette cérémonie pour nous parler de cette musique que l'on va mettre au milieu de cette émission.
Alors, le tombeau de mes grands-parents, donc André Chanson et Lucie Mazerie, se trouve au col de la Luzette. Et depuis leur décès, depuis 1983, tous les ans, nous nous réunissons, la famille, les fidèles, les amis, parfois des curieux, beaucoup de faits libres. Et maman m'avait dit, moi j'aimerais être incinérée, que mes cendres soient autour du tombeau de mes parents. Papa a dit, mais moi aussi, je suis ma femme, je suis d'accord.
Frédéric était la fille unique, hein, dans
voilà,
sa chanson,
la fille unique. Et bien, en 2024, si je ne me trompe pas, nous nous sommes réunis, mes frères, mes neveux et moi, au tombeau, avec, c'est très dur, hein, deux urnes, un pour le papa, un pour la maman. Et mon frère François avait dit, si tu es d'accord, on ne va pas parler, j'ai envie de mettre une musique... que maman aimait beaucoup, souvent de l'écouter pour écrire. Et j'étais tout à fait d'accord, c'est ce que vous allez nous faire entendre. Et c'était très beau, même si c'était très triste, mais nous étions dans cet endroit magnifique, avec une vue qui descend progressivement de montagne en colline, jusqu'à l'horizon, jusqu'à la mer. Et écouter Gustave Mahler à ce moment-là, c'était comme une récompense. Mmh.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Catherine Veil et Micheline Cellier pour nous parler avec beaucoup d'émotion, mais en même temps de, je dirais, d'optimisme, parce qu'ils sont, ils sont vivants quelque part. Hein, André Chanson, Lucie Mazerie, ils sont là. Hein, ils sont là dans Absolument. Cette exposition. Ils participent à notre éducation, à l'éducation des jeunes. Hein, dans le colloque, il y aura un jeune thésard, on va dire. Donc,
Docteur, pardon. Il a passé sa thèse. Oui.
Donc c'est important et de lire les. On ne va pas énumérer tous les livres qu'a écrit votre grand-père, mais on y trouve à chaque fois quelque chose qu'on peut adapter donc à nos jours. Et puis je voudrais tout de même revenir aussi pour Radio Alliance Plus. J'ai eu le bonheur de rencontrer votre nièce,
oui,
Alice. On a fait une émission ensemble. Parce qu'elle a fait un très beau film, oui. Documenté, son premier film, sur vos parents. Et je trouve que c'est une belle continuité. Hein. C'est une famille, c'est une... Et c'est rare tout de même, je trouve, de trouver une telle continuité. Ben,
surtout que Alice, puisque vous parlez d'elle, on ne lui a jamais rien demandé. C'est elle qui a dit « J'adorais mes grands-parents », donc Louis-Elle et Frédéric Hébras, mes parents. et je veux faire un film sur eux, sur toute la famille. Et moi, j'avais un petit peu peur, je lui fais totalement confiance, mais j'avais un petit peu peur qu'on soit la famille Rintintin, un peu mise en avant, etc. Et elle a réussi ce tour de force, c'est-à-dire que c'est à la fois nous, notre famille, puisqu'il y a Louis, Frédéric, moi, mes frères, les neveux, etc., Michel Wynne, qui a réalisé La Demoiselle d'Avignon, mais j'ai trouvé qu'elle a réussi à nous présenter de façon à ce que ça parle à toutes les familles. Mmh. Et c'est ça qui était un morceau formidable, parce que, oui, ils ont été un peu vedettes à leur époque, Louis et Frédéric, donc je me disais, est-ce que ça ne va pas agacer les gens quand on revienne là-dessus ? Si vous saviez, elle a eu plus de 37 000 vues sur YouTube, alors qu'elle n'est pas connue, elle en parle très bien. Et ce film a énormément touché les gens. Oui, j'ai eu un mot de mon ex-mari qui m'a dit « mais je suis bouleversée », etc. Non, vous voyez, ça c'est allé dans toutes les directions.
On a eu beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à Radio Alliance Plus, justement. Elle s'est déplacée de Paris, on a fait l'émission ensemble. C'est un très beau moment. Et Micheline, vous qui êtes biographe, comment dire, c'est une belle façon, je veux dire, de transmettre. Hein. La biographie, c'est un travail... ardu, c'est un travail...
C'est un travail qui s'articule en fait sur des documents qui sont déjà là. Donc c'est un genre un petit peu contraint. Et il faut effectivement avoir une certaine adhésion quand même au personnage. Voilà. Ce qui a été tout à fait mon cas. Voilà, donc ce n'est pas forcément géographique. Hein, c'est-à-dire qu'on peut effectivement débusquer des éléments ou des moments où on n'est pas tout à fait d'accord, mais cela n'a aucune espèce d'importance. Mais c'est vrai que quand on travaille sur l'itinéraire de chansons, au fond, on a quand même beaucoup de chance parce qu'il s'est relativement peu trompé, et que les valeurs qu'il défendait sont toujours d'actualité, c'est vrai.
Alors, à l'occasion de cette exposition, les éditions Alcide, Yann Cruvelier a édité un très beau catalogue qui s'appelle Résister, et je conseille vraiment de se le procurer à la librairie du Carina. Je ne vais pas dire qu'il y a tout, mais c'est un autre exercice la biographie, de faire un catalogue.
Et ça sera un livre dans toutes les librairies, plus qu'un catalogue. Voilà, ils ont décidé que ça allait être un livre véritable qui est déjà distribué, qui dans quelques jours, à peine demain, va être mis en vente.
Et demain, le 14 avril.
Va être mis en vente dans toutes les librairies de France et de Navarre. Et c'est un livre magnifique. Micheline y a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé.
Mais pas seulement moi, vraiment.
Mais ça a été écrit.
Qui est absolument formidable. Et Cathy l'a dit, et moi, effectivement, j'ai travaillé avec lui avec un bonheur vraiment important. Il y avait également Guillaume Bopp, donc qui s'est occupé du traitement du fond chanson, et Dieu sait que son fond est extrêmement...
C'est un travail
d'archiviste. Voilà, d'une densité absolument incroyable. Et puis Patrick Abanel, qui est grand historien du protestantisme, est toujours prêt à travailler sur chanson, et donc j'ai eu beaucoup de bonheur à le retrouver.
Alors, c'est vrai que Valérie Travier, qui vient de passer, nous disait justement en introduction que c'est réducteur de dire que c'est un écrivain Cévenol. Hein. En fait, ce n'est pas un écrivain Cévenol, c'est un écrivain.
C'est un écrivain. Il dit « Le monde est ma paroisse », donc déjà, ça le sent du régionalisme.
Bien sûr. Et puis, ce que j'ai découvert dans l'exposition, parce qu'il y a les panneaux, mais il y a aussi les vitrines, et on voit les lettres, on voit les éditions, combien il a été traduit. Dernièrement en russe.
Oui.
C'est extraordinaire. Racontez-nous.
Alors, pour la traduction en russe, c'est plutôt Catherine.
Alors, j'ai eu un monsieur charmant qui m'a appelé il y a peut-être 2 ans, disant voilà, je voudrais traduire Roule Bandit en russe. Je ne savais pas qui il était. Il dit directeur de l'Institut français de Moscou. Là-dessus, c'était déjà bien engagé la guerre avec l'Ukraine. Je me suis dit, ça ne va jamais marcher et tout. Et puis, au bout d'un an de silence, j'ai rappelé en disant, j'ai bien compris que... Et il m'a dit, non, on a presque fini. Et ce monsieur qui dirige l'Institut français de Moscou est né à Lunel. C'est sympathique quand même. Oui, quel hasard.
Et donc, les
Russes ont été emballés par ce texte. On a fait un zoom de Paris-Moscou et j'ai parlé avec, il y avait une traductrice heureusement, avec deux des traductrices du texte, Et le super chef qui disait, il y a tellement de mots dans la langue russe pour dire la feuille, la neige, le vent, que nous avons beaucoup travaillé là-dessus pour savoir quel était le mot exact en russe qui définirait le mieux la pensée de chanson. J'ai trouvé ça absolument remarquable. Alors oui, tu as raison, Micheline, Roule Bandit existe en russe.
Oui, et Gilles Mamet s'est venu d'ailleurs sur le tombeau.
Sur le tombeau, non, il n'est pas venu,
non, il avait laissé une lettre, une très jolie lettre. Oui.
Et vous, Micheline, parlez-nous des traductions en japonais.
Alors, il y a eu des traductions en japonais, mais là, c'était des traductions un petit peu plus anciennes et qui dataient de l'entre-deux-guerres. Mais il y a eu effectivement des
très connu au Japon.
Il y a Rook the Bandit en anglais.
Oui,
oui, il y a la BD qui vient de sortir.
On en reparlera. Puis il y a également il y avait une traduction en roumain, des traductions en suédois, des traductions. Enfin,
mais au Japon, c'est assez.
Ah, mais au Japon, alors moi, ça ne m'étonne pas.
C'est une autre civilisation.
Oui, c'est une autre civilisation, mais ça ne m'étonne pas parce que je sais que par exemple, il y a des études en provençal au Japon. Ça vous paraît curieux, mais c'est vrai. Et j'étais en contact avec un chercheur japonais qui m'avait envoyé un article très très bien fait d'ailleurs sur les événements du 6 février 34 et sur le roman La Galère. Vous vous rendez compte?
Oui.
Vraiment. Et il me l'avait envoyé en me disant, comme pensez-vous? Je lui dis, mais c'est parfait. Puis j'étais absolument ravie de voir qu'en effet, chanson pouvait dépasser
Le Wikipédia japonais, paraît-il, est plus que riche sur André Chanson.
Oui. Donc, écrivain universel, voilà, on va dire mondial.
Oui.
Et je conseille vraiment de venir voir l'exposition, d'acheter le catalogue, de lire ses livres. Faut commencer peut-être par Rook the Bandit.
Je pense que c'est une très bonne idée de commencer par Rook the Bandit. Adeline Vénitien qui est également très très jolie, Les Quatre Éléments qui est très réussi, et puis Le Puits des Miracles.
Oui, là, Alcide vient de rééditer Le Puits des Miracles. Et c'est vrai que la première nouvelle.
Le tueur de chiens,
oui,
c'est très fort.
C'est la
collaboration. On voit où on est.
La
collaboration. Oui. Moi, je voudrais citer de tous les livres que tu as cités, Micheline, je les aime beaucoup. Moi, j'ai un petit béguin pour Le Chiffre de l'Ange.
Ah, bien sûr. C'est sa biographie, en fait, c'est fait sa propre.
C'est son enfance. J'en suis contente.
Merci à toutes les deux et à bientôt pour le colloque. Vous serez là pour le vernissage demain,
oui,
et puis pour le colloque les 24 et 25 avril.
Merci beaucoup.
Avec les gens.